Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Toulouse, Jérusalem, à pied, c'est le défi que s'est fixé un prêtre de notre région. Il l'a réalisé et nous en fait le récit aujourd'hui. Bonjour Père Simon d'Artigues.
Bonjour.
Vous êtes prêtre du diocèse de Toulouse et allez être le nouveau curé de la paroisse de Colomiers. Pendant une année scolaire, vous avez rejoint à pied Jérusalem. C'est un long pèlerinage pour un ressourcement spirituel. Peut-être juste avant d'aborder les raisons pour lesquelles vous avez entrepris ce pèlerinage, à combien de kilomètres avez-vous parcouru?
Entre Toulouse et Jérusalem, 6000 kilomètres.
Donc
à près de 2000 kilomètres en Terre Sainte et en Jordanie.
Oui, c'est ça. Et puis, il y a eu le retour aussi.
Et le retour.
Et voilà. Donc, un total de
14 000 kilomètres.
14 000 kilomètres.
Dont 8 000 kilomètres à pied. Voilà.
Oui, parce qu'il y a eu quelques petits trajets
voilà,
en avion.
Voilà, j'ai fait en stop, en train, en bus, le retour.
Oui, c'est ça. Pour quelles raisons avez-vous entrepris ce pèlerinage?
En fait, ça arrivait un peu au milieu de ma vie sacerdotale. Donc, c'était... l'occasion de demander au Seigneur un renouvellement de grâce, quoi. C'est l'Église hein, qui m'a offert ça. Donc c'était comme une grande retraite, en fait, comme une grande retraite de 10 mois offerte après 22 ans de vie sacerdotale. Et puis ben, il m'en restera beaucoup, mais en tout cas de vie active, encore 24, 25 ans. Voilà. Donc c'était vraiment une belle occasion. De pouvoir à la fois faire un point et puis demander au Seigneur vraiment d'être renouvelé dans mon sacerdoce.
Vous avez dû, j'imagine, pendant ces 14 000 kilomètres, vous abandonner à la Providence parce que vous êtes parti à pied, vous êtes parti sans argent. Comment ça s'est passé?
Alors, j'avais quand même une carte bleue, mais j'avais pris la décision de vivre de la Providence, et donc de mendier mon toit et mon pain tous les jours, enfin tous les soirs en tout cas. Je ne m'interdisais pas d'acheter quelque chose, mais finalement, la Providence a été bonne, les hommes ont été bons avec moi, et j'ai été reçu tous les soirs. Hein, j'ai dormi 12 fois dehors en 6 mois. Voilà. Et la plupart du temps, les gens m'offraient un repas du soir, bien souvent le petit déjeuner, et un pique-nique, ou bien les maraîchers où je trouvais des fruits, des légumes. Voilà. Donc, j'ai très peu dépensé, finalement.
Qu'est-ce que ça dit, cette hospitalité?
Ça dit que les hommes sont bons. Ça dit que les hommes sont bons. Contrairement à ce que parfois on peut entendre. Ça m'a marqué en rentrant en France de voir un peu tous ces faits divers, toute cette, sur les chaînes infos, etc. Voilà. On a l'impression que le monde est dangereux, que le monde est violent, que le monde est hostile, qu'il faut se méfier des gens. Je nie pas qu'il puisse y avoir des violences, etc. Mais moi, l'expérience que j'ai faite en mendiant, en frappant à la porte des gens, c'est que Dieu est bon et que les hommes sont bons. Voilà. Que les hommes m'ouvraient leurs portes et m'accueillaient, moi, un étranger. J'arrivais souvent le soir, poussiéreux, suant, avec mon sac à dos. Je sais pas, un homme de 90 kilos, d'1m85. C'était pas forcément rassurant et pourtant les gens m'ouvraient leurs portes et m'accueillaient. Voilà. Et donc, pour moi, c'était une très belle expérience d'avoir à mendier et d'être accueilli.
Qu'est-ce que justement cette expérience de mendier et d'être accueilli peut vous apporter dans votre vie de prêtre et pour justement ces 25-30 années à poursuivre? Parce que c'est pas évident quand on est prêtre, on donne beaucoup.
Oui, absolument, absolument, c'est vrai. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que on donne beaucoup, mais on donne en étant en position haute. Vous savez, on nous demande, et nous, on aime donner et on donne, mais finalement, c'est assez facile de donner quand on nous demande. On nous demande de baptiser un enfant, un accompagnement, d'être confessé, de préparer les obsèques d'une grand-mère. Mais on donne en étant toujours en position haute. Alors que là, la mendicité, ça m'a situé en position basse et de dépendre des gens, vraiment. Mais si jamais ils ne me donnaient pas, je dormais dehors. Mmh. Et en fait, j'ai fait deux fois l'expérience de dormir en ville, dans la rue. C'est une expérience désagréable.
D'un dépouillement, oui.
Et donc voilà, donc quand on dépend vraiment pour ce qui touche à nos besoins les plus fondamentaux, c'est-à-dire la sécurité, un toit, la nourriture, la relation, C'est une belle expérience, en fait, voilà,
De se laisser prendre en charge et,
voilà, et d'être en position basse, de mendier, vraiment de mendier. On le dit un peu spirituellement parfois qu'il faut se faire mendiant de la grâce, etc. Ben, là, moi, j'étais mendiant très concrètement, quoi, de mon toit et de mon pain. Quoi.
Des besoins primaires.
Oui.
Alors, vous êtes parti seul, mais je suppose que vous avez été chargé de nombreuses intentions. Hein, quand quelqu'un part en pèlerinage, tout de suite, il y a des personnes qui vous disent est-ce que vous pouvez prier pour telle intention sans donner de nom, évidemment. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que vous avez porté comme intention pendant ce pèlerinage?
Ah, peut-être juste avant, c'est parce que pour moi c'était la solitude, c'est quelque chose que je redoutais,
voilà,
de partir seul, et je me disais voilà, comme prêtre, j'ai pas l'habitude d'être seul, enfin voilà, et donc ces intentions de prière, c'était en effet, on m'en a confié, je sais pas, 350 ou donc j'avais une liste vraiment d'intentions, je l'ai notée de manière à pouvoir prier chaque jour pour une de ces intentions, la porter pendant la journée, dans mon chapelet, dans l'office, pendant la marche. Et c'est vrai que ça m'a permis de vivre cette solitude, enfin de me dire, voilà, je suis parti en pèlerinage, j'ai quitté ma paroisse, je retournerai dans 10 mois dans une paroisse, mais je garde un lien pastoral, finalement spirituel, avec des personnes qui m'ont confié cette prière. J'éprouvais un petit peu ce qu'éprouvent les contemplatifs, les communautés contemplatives à qui on confie des intentions, et c'est, j'avais presque le tout de leur apostolat, quoi. Et en fait, c'est très puissant, ce lien spirituel. Il était double, d'ailleurs, il y avait ces intentions qu'on m'avait confiées, et une paroissienne avait eu cette idée de faire un calendrier pour que chaque jour, une personne prie pour moi. Et moi, j'ai pris la photo pour savoir finalement qui priait pour moi ce jour-là. Et du coup, ça crée un autre lien spirituel, enfin un autre lien de pastoral, qui nourrissait mon cœur de pasteur.
Oui, c'est ça. Donc, vous n'étiez pas vraiment seul, finalement.
Donc, je n'étais pas seul spirituellement. Et de fait, en étant reçu tous les soirs, ou presque, j'étais jamais seul. Et finalement, la solitude a été très légère, parce que je la vivais dans les 10 heures de la journée, 10 heures de marche. Mais le soir, finalement, j'étais tout le temps reçu par une personne, un couple, une famille, un prêtre, une communauté religieuse, un imam. Enfin, ce que le Seigneur mettait sur mon chemin, quoi. Et donc, cette rencontre-là, elle nourrissait la relation. Quoi.
Bien sûr. On entend souvent que les pèlerins du chemin de Saint-Jacques de Compostelle font des rencontres sur le chemin. Et là, je ne veux pas parler de ces personnes qui vous ont accueilli, dont vous avez défini leur bonté. Mais est-ce que vous avez fait des rencontres au long de votre chemin qui vous ont peut-être bouleversé ou peut-être changé?
Alors, en fait, la plupart des rencontres que j'ai faites, c'est les rencontres du soir.
C'était vraiment ça.
Parce que, en fait, je ne marchais pas sur un chemin de pèlerinage. J'étais quasiment seul à marcher. J'ai croisé très, très peu de personnes. Quelques personnes en Italie, sur la Via Francigena, le chemin vers Rome. Mais c'est à peu près tout. En France, j'étais à contre-courant. En Italie, je vous dis, après Rome, il n'y avait plus personne. En Grèce, en Turquie, à Chypre. Voilà, donc les rencontres bouleversantes, il y en a eu vraiment des dizaines, c'était les personnes qui me recevaient, voilà, ou parfois sur le bord du chemin, quelqu'un qui m'offrait un verre d'eau, m'offrait un fruit, mais c'était des rencontres très courtes parce que...
il fallait que vous avanciez, voilà,
il fallait que j'avance, voilà. Alors que le soir, ça pouvait être des rencontres longues, et donc il y en a eu tellement de très belles, quoi. Ouais.
Vous auriez un exemple?
Oui, j'ai... En Italie du Nord, j'arrive dans une petite ville dans laquelle j'avais repéré qu'il y avait plusieurs couvents, et donc je m'étais dit ça va être facile de mendier. Donc j'arrive chez les franciscains, à l'hygiaphone, le jeune frère me dit non, le supérieur n'est pas là, on ne peut pas vous accueillir. Bon, je vais voir les religieuses du Sacré-Cœur qui étaient à côté, une religieuse francophone m'accueille et me dit « Ah ben non, nous on accueille que des migrants, désolé, on ne peut pas vous accueillir. » J'avais envie de dire « Mais moi je suis un peu un migrant,
oui,
si vous voulez.
»
Allez voir le curé, allez voir le curé. » Donc je vais voir le curé qui avait un énorme presbytère au milieu de la ville, enfin du bourg. Je sais pas, 4 étages, 6 fenêtres à chaque étage.
Donc là,
je sonne.
Il y a au moins une chambre pour moi.
Bah oui, évidemment. Et il ouvre la fenêtre à l'étage. Je me présente comme prêtre parce que j'étais pas habillé en prêtre. Hein. Et il me dit non, désolé, pas de place. Il y a pas de place pour vous ici. Je dis tu plaisantes quoi. Et il me dit, mais par contre, les bénédictins, à la sortie de la ville, là, ils ont un couvent, ils ont l'habitude d'accueillir les pèlerins. Donc, je vais aux vêpres dans l'abbaye. À la fin des vêpres, j'interpelle un frère qui me dit, ah, mais comme c'est dommage, si vous nous avez prévenu il y a 2 jours, on vous aura accueilli avec joie, mais là, c'est pas possible. Et puis, il m'accompagnait vers la sortie, il referme la porte de l'église, je me retrouve sur le parvis tout seul. C'était la sortie de la petite ville. Je me dis, tant pis, je vais dormir sur la plage. Et là, une femme qui était au vêpres, une ivoirienne, qui est francophone, me dit, écoutez, j'ai entendu que le frère Alberto, enfin, que vous cherchiez un endroit où dormir. Si vous voulez, moi, j'habite juste à côté, je peux vous accueillir. Donc, cette femme m'accueille, enfin, elle m'amène chez elle, et dans un petit immeuble. Et là, elle ouvre la porte de chez elle, elle avait 5 enfants, elle dit « Regardez qui j'amène, qui va passer la nuit avec nous, c'est le père Simon, c'est un prêtre qui est pèlerin, on va faire un bon repas ce soir. » Alors elle donne un billet à ses enfants, qui partent en courant
pour aller faire quelques courses,
qui reviennent un quart d'heure plus tard avec des pâtes et des glaces, c'était le repas de fête pour eux.
Oui, c'est ça.
Et donc voilà, ils habitaient dans 30 mètres carrés, 2 pièces, et à la fin du repas, la maman dit aux enfants quelque chose à l'oreille. Ils vont dans la pièce d'à côté, j'entends du bazar, etc. Puis je les vois ressortir 5 minutes après avec des matelas, des oreillers. Et ils avaient préparé la seule chambre qu'ils avaient dans la maison pour moi. Et tous les 6 dormaient dans l'autre pièce, la pièce commune, quoi. Donc voilà, c'était vraiment une très belle... C'était évangélique, quoi, comme rencontre et comme... Voilà. Le lendemain, j'ai été accueilli par des capucins. Parce que parfois, on se dit, du coup, les religieux, ils n'étaient pas accueillants ici. Le lendemain, j'ai été accueilli par une communauté de capucins merveilleuse, mais hyper fraternelle. Voilà.
Mais ça ne tombait pas bien, quoi. Voilà. Vous êtes
Et puis, en fait, je m'émerveillais. Finalement, je trouvais normal qu'on ne m'accueille pas. Parce que moi, je me disais, si quelqu'un frappe à ma porte, je ne suis pas certain de l'accueillir.
Par crainte.
Oui, par crainte, voilà. Et donc, quand on ne m'accueillait pas, je me disais, c'est normal. Et par contre, quand on m'accueillait, je me disais, mais c'est merveilleux. Oui. C'est vraiment merveilleux. Oui. Et alors, c'est certainement le Seigneur qui a gardé mon cœur de ne pas me durcir, parce que j'ai quand même finalement, chaque jour, je frappais à, je sais pas, 7, 8, 9, 10 portes avant d'être accueilli. Donc, j'aurais pu...
Et il ne fallait pas désespérer, quand même.
Voilà, j'aurais pu un peu désespérer
ou être aigri,
râler contre les personnes. Mais non, ce n'est pas arrivé.
Ce n'est pas arrivé. Père Simon d'Artigue, vous avez donc traversé la France, l'Italie, la Grèce, la Turquie et Chypre afin d'atteindre la Terre Sainte. Quelles sont les étapes qui vous ont particulièrement marqué sur ce premier tronçon?
Rome, évidemment. C'était l'année jubilaire. Je voulais faire le pèlerinage à Rome. Et puis, surtout, voilà, pouvoir... célébré sur la tombe de mon saint patron, saint Pierre, et de saint Benoît Joseph Labre, à qui j'avais confié mon pèlerinage, qui est un saint mendiant, qui est mort à Rome. Parce que les saints ont vraiment été des compagnons de route pour moi. J'étais dans plein de sanctuaires qui tombaient sur ma route, que je connaissais pas, des grands saints, des petits saints, des saints absolument inconnus. Et vraiment, j'ai été leur compagnon de route à la suite du Christ. Donc, il y a eu Rome, Patmos. Voilà, j'ai pu passer 4 jours dans la grotte de l'Apocalypse. Et là, c'était vraiment un lieu merveilleux, enfin, spirituellement, quoi. C'était extraordinaire de pouvoir lire l'Apocalypse là où Saint Jean l'avait reçu.
Et puis, peut-être les écrits de Saint Paul qui ont pris cher dans ces endroits où il est passé.
Alors en effet, je m'étais donné de lire toute la Bible pendant ce pèlerinage, et je m'étais dit je vais lire l'Ancien Testament en France, en Italie, un peu en Grèce, je lirai l'Apocalypse à Patmos, je lirai les lettres et les actes en Turquie, et puis je garderai l'Évangile pour la Terre Sainte.
Pour la Terre Sainte, bien sûr.
Et donc en effet, vous savez, particulièrement, hein, alors que ce soit à Patmos, pour l'Apocalypse et en Turquie pour une partie de Paul. Enfin, c'était vraiment des lieux où il est passé, hein, même si je ne suis pas passé à Antioche, je suis passé par la côte, quoi, mais il y a plusieurs des ports par lesquels on retrouve les traces dans les Actes des apôtres, quoi. Donc, ça me préparait, en fait, cette lecture de la parole, ça m'a préparé à la lecture de l'Évangile en Terre Sainte.
Mmh. Ouais. Un peu comme les Hébreux qui ont parcouru le désert, et dont le cœur a été préparé par Dieu pour accueillir après le
Christ. Oui, c'était vraiment une... Je vous dis, c'était un... Pour moi, ça a été comme une retraite, hein, et vraiment une retraite avec la parole de Dieu, parce que du coup, ma matinée entière était dédiée à la lecture de la parole de Dieu, à la méditation, en marchant. Hein, donc, j'avais mis des stratégies ou des exercices de prière en place pour pouvoir, pendant 3-4 heures, mais finalement, c'était très... Moi, je n'imaginais pas que je puisse méditer la parole pendant 3 ou 4 heures par jour, quoi.
Vous l'avez
manqué. Et en fait, ça se fait... Ça se fait naturellement ou surnaturellement. Enfin, en tout cas, le Seigneur donne
quand on donne ce temps.
Moyens. Ouais.
Quand on donne ce temps. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Je vous propose, Père Simon d'Artigues, de marquer une pause musicale. Nous écoutons Céleste Jérusalem, interprétée par la communauté de l'Emmanuel.
Présence.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Toulouse-Jérusalem à pied, l'aller-retour pendant 10 mois sur 14 000 km. C'est le pèlerinage entrepris par le Père Simon d'Artigues, prêtre du diocèse de Toulouse lors de cette année scolaire. Père Simon, vous avez donc parcouru les pays que nous avons cités avant cette pause musicale et vous êtes arrivé en Terre Sainte. Vous avez passé quelques semaines quand même à Jérusalem, alors que pendant un certain temps, les lieux saints étaient fermés au public. Et de fait, avant le conflit en Iran, il y avait déjà beaucoup moins de touristes. Qu'est-ce que vous avez vécu dans cette ville sainte ?
À Jérusalem, alors déjà, Jérusalem, c'est le Christ. Hein, et c'est le Christ en sa passion. En fait, à Jérusalem, on est tout le temps dans la passion du Christ. Voilà, tous les lieux, tous les textes, même s'il y a quelques épisodes hein, qui ne sont pas liés à la passion, la guérison à Bézata, à Siloé, etc. Mais spirituellement, en tout cas, on est tout le temps dans la passion. Et donc c'est un lieu, la passion et la résurrection, bien sûr, hein, mais donc c'est un lieu qui est lourd, Jérusalem, en fait. C'est lourd spirituellement, c'est lourd... voilà, donc la guerre peut y ajouter, mais voilà, moi ce que j'ai vraiment en passant ce premier mois à Jérusalem, et donc en allant chaque matin au Saint-Sépulcre, et donc au calvaire et au tombeau, au tombeau vide bien sûr, hein, mais quand même au tombeau, voilà. L'expérience qu'on fait, que j'ai fait plutôt, c'est vraiment l'expérience de la passion du Christ.
Parce que pour vous, ça restait encore un peu abstrait ou, là, vous l'avez expérimenté sur place, en fait, c'est ça?
Oui, c'est le fait, de durer, parce que finalement, je suis resté le premier mois à Jérusalem, j'étais hébergé par les Pères Blancs à Sainte-Anne, mais chaque jour, je passais quasiment 5, 6, 7 heures dans un lieu saint, où je lisais tous les épisodes bibliques, je lisais les commentaires, enfin les homélies patristiques souvent, et je priais sur ce lieu-là, que ce soit d'ailleurs... le mur des lamentations, que ce soit le Pater ou Dominus Flevit ou Gethsemane ou le Saint-Sépulcre. Enfin, puis on a tant et tant, enfin voilà. Mais du coup, en méditant longuement dans chacun de ces lieux, ce qui ressort en suivant Jésus, parce qu'on peut faire le parcours de Jésus, le parcours de ce chemin, du Triduum, quoi, hein, du jeudi saint, vendredi saint, samedi. Voilà, on le suit vraiment dans sa passion et du coup, on est dans la passion avec lui et on le vit spirituellement, très fortement.
Alors, on imagine que l'année prochaine, quand vous allez vivre justement cette semaine sainte avec vos paroissiens, ce sera peut-être différent.
Alors, je sais pas. c'est certainement, tout l'évangile prend une autre teinte, en quelque sorte, une autre dimension hein, quand on lit les évangiles, quand on les médite, quand on les prie longuement sur les lieux. Moi, j'avais été plusieurs fois en Terre Sainte, mais je crois que c'est la 8e fois que j'y allais. Et c'est très différent d'y arriver à pied, évidemment.
Ouais, hein.
Autant de temps, alors, que ce soit à Jérusalem, que ce soit en Galilée. Vraiment de chercher tous les lieux de l'évangile. Et j'ai pu vraiment, retrouver tous les lieux de l'évangile. Puisque j'avais du temps, j'avais 3 mois à marcher, voilà.
Oui. Ouais. Et justement, vous vous êtes arrêté en Galilée, vous avez parcouru le désert de Judée. Alors là, ce sont évidemment pas les lieux de la passion du Christ, mais c'est vraiment les lieux qui sont chargés de la présence du Christ. Qu'est-ce que cette expérience a apporté à votre prière et peut-être aussi à votre réflexion?
En fait, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est que ma prière, c'est vraiment... la méditation de la parole en marchant pendant les 10 premiers mois, enfin les 6 premiers mois plutôt, qui a nourri,
qui a préparé
la lecture de l'évangile là où il a été vécu. Voilà. Et donc, bien sûr que quand même ma prière était nourrie par ça, nourrie par la suite du Christ. Et je vous disais, autant en Jérusalem... c'est la passion, la suite de Jésus dans sa passion. Autant la Galilée, c'est le discipulat. C'est vraiment, et du coup, c'est beaucoup plus léger. C'est l'appel des disciples, c'est l'enseignement, c'est les grands discours, c'est les miracles. Et donc, il y a quelque chose de très, de très doux. J'ai pu passer quasiment un mois en Galilée et vraiment suivre, là pour le coup, suivre les chemins où Jésus est passé, parce que entre Bethsaïde et Capharnaüm, on voit bien que la crête ou la vallée, il est passé soit par la crête, soit par la vallée, donc on sait que c'est là. Et on retrouve vraiment les épisodes de la femme hémorroïde, de l'appel de Matthieu, et ils sont marqués dans la... Enfin, ils sont marqués, hein, il y a des emplacements où la tradition nous dit que c'était à tel endroit, quoi.
Oui.
Et souvent, quand on passe pour un pèlerinage de 10 jours, on passe de manière un peu rapide. Là, on peut vraiment... Je veux vraiment chercher les lieux et prier tel évangile à tel endroit. Oui. Donc, c'est quelque chose de très... très nourrissant.
Oui. Eh oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, sur la route de votre retour, vous avez traversé la Jordanie, vous avez mis vos pas dans ceux de Moïse et d'Aaron. Qu'est-ce que cette immersion dans l'Ancien Testament, même si vous l'aviez déjà médité, vous nous l'avez dit au début de votre pèlerinage, qu'est-ce que ça vous a apporté?
Alors déjà, c'est encore un coup de la providence, parce que je ne pouvais pas sortir d'Israël par avion, parce que j'avais prévu le départ. Donc un moine m'a dit, il faut que tu passes par la Jordanie. Et en Jordanie, il faut absolument que tu... Il y a tellement de lieux saints, il ne faut pas que tu repars tout de suite. Enfin, passe-y au moins 15 jours.
Donc il m'avait fait votre planning.
Et il m'avait donc indiqué tout un tas de lieux. Et particulièrement, en effet, c'est la suite de Moïse, d'Aaron, d'Élie, bien sûr, qui est de Jordanie. Et donc, c'est une plongée dans ces 40 ans au désert, en fait. Et d'ailleurs, vous évoquiez tout à l'heure les 40 jours au désert en Judée, et finalement ces deux déserts-là, enfin, le désert de Judée, celui qui est entre Jérusalem et la mer Morte, et le désert de Jordanie, en effet, c'est des lieux d'expérience spirituelle très, très forts, quoi. Donc en effet, là, c'était vraiment la délicatesse de Dieu que de me permettre, après avoir quitté Jérusalem, et j'étais un peu dans le chemin du retour... De pouvoir goûter aussi à la suite de Moïse, d'Aaron, ces 40 ans du désert, et tant d'épisodes qui sont des grands épisodes du progrès spirituel. Finalement, ces 40 ans au désert, c'est vraiment quelque chose qu'on peut relire comme un chemin spirituel, quoi. Et pour moi, c'était très bon d'avoir ce temps en Jordanie.
Oui, et finalement, ce que vous vous disiez au départ de faire un point, entre guillemets, sur vos 22 ans de prêtrise, de sacerdoce, finalement, c'est presque la Jordanie et ses expériences au désert qui vous ont permis de vous interroger sur de demander au Seigneur ce qu'il voulait pour vous pour ces prochaines années.
Alors, non, ça ne s'est pas fait en Jordanie. C'est vraiment... Ça a été la lente préparation, et c'est vraiment en Galilée, là où le Seigneur a appelé les disciples. Ouais. C'est là que pour moi, c'est un peu noué vous savez, c'est le suis-moi qu'on a en Saint Jean, de Jésus à Pierre, les deux suis-moi, quoi. Et donc c'est vraiment la Galilée qui pour moi a été le lieu de... de renouvellement le plus puissant, le plus fort, quoi.
Oui, et de l'ancrage de votre vocation.
Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. La Jordanie, c'était le retour et un autre cadeau du Seigneur.
Et puis ce temps de désert qui, on le sait, dans vos vies très rythmées et très chargées de curés de paroisse, ne sont pas forcément donnés.
Oui, oui. Là c'était un don,
un
cadeau du Seigneur. Que j'avais pas prévu du tout. Alors, de fait, j'avais pas prévu grand-chose. Ou plutôt, si, j'avais prévu mon parcours pendant ces 10 mois, mais en fait, je l'ai abandonné au bout de 6 jours. Parce qu'au bout de 6 jours, je me suis dit, ça veut dire d'avoir prévu toutes les étapes, alors que, heureusement, le Seigneur m'a donné de l'abandonner très rapidement. Parce qu'on a toujours envie de tout cadrer, de tout maîtriser, de tout mesurer, de tout préparer. En fait, le Seigneur avait préparé plein de choses merveilleuses pour moi, et il m'a juste laissé une semaine le temps de m'acclimater, puis au bout d'une semaine il m'a dit, écoute Simon, laisse tomber tout ce que tu avais prévu pour faire ce que j'ai prévu pour
toi. C'est ça.
Et il avait prévu des choses merveilleuses.
Forcément, vous avez traversé au retour aussi de nombreuses villes d'Europe de l'Est, Constantinople, Sofia, Belgrade, Budapest, Prague, des villes pour certaines où le catholicisme a été longtemps contraint sous l'ère communiste. Est-ce que vous avez senti une différence dans la foi des gens que vous avez croisés?
Alors, oui, mais pas. Enfin, là, c'était tellement rapide la traversée d'Europe de l'Est, parce que j'avais passé finalement quasiment 3 semaines en Jordanie, et voilà, donc je l'ai fait en 15 jours. Mais c'est vrai que dans chacune de ces villes, j'ai d'abord été voir le musée national qui raconte l'histoire nationale, et la plupart de ces pays sont des pays très, très profondément marqués par leur histoire chrétienne, quoi. Et c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'un pays se raconte et raconte son histoire chrétienne et la manière dont il a vécu, les figures. Voilà, par exemple, pour la Serbie ou la Bulgarie, les grands personnages de leur histoire sont des grands saints. En fait, c'est vraiment des grands saints et il le raconte comme tel, quoi. Mais voilà, c'était une traversée rapide de cette Europe de l'Est, de cette Europe chrétienne, quoi.
Oui.
Mais qui m'a permis, finalement, c'est un conseil que m'avait donné un pèlerin. Il m'avait dit, si tu peux rentrer lentement, rentre lentement, voilà, pour ne pas faire en 6 heures d'avion ce que j'avais fait en 6 mois de marche,
Ah
quoi.
oui, bien sûr.
Donc voilà, le fait
Oui.
de rentrer en marchant par la Jordanie, puis après de rentrer en stop à travers l'Europe de l'Est et de terminer du Puy-en-Velay jusqu'à Toulouse à pied par le chemin de Saint-Jacques. C'était une manière, voilà, de me tourner vers Toulouse et de rentrer et de relire justement, ça a duré 2 mois, de relire ce que le Seigneur m'avait donné de vivre pendant les 9 premiers mois, enfin les 8 premiers mois. Voilà. Donc c'était vraiment une belle expérience aussi, finalement, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai quitté Jérusalem, je me suis retourné vers Toulouse et donc vers ce que
Vous
serait
êtes
ma
projeté
vie. Enfin voilà.
sur le retour, oui.
Mais voilà, mais j'ai
La
pris
plainte
conscience que le
pèlerinage.
Seigneur m'avait donné de vraiment pendant les 6 mois de marche, les 3 mois à Jérusalem, d'être tout entier à ce pèlerinage, quoi, tout
Oui,
entier à lui, en fait,
c'est
tout
ça,
entier au
oui.
Seigneur. Quand je disais que c'était une retraite, c'était vraiment voilà, me poser au pied du Seigneur, le suivre, l'écouter, le prier, bien sûr. Avant qu'il me renvoie à nouveau en mission, disant
Voilà,
voilà,
mais chaque
si
chose en
mon.
son temps.
Mais chaque chose en son
Ouais.
temps, et voilà, la grâce m'a été faite de passer les 9 premiers mois vraiment tout entier avec le Seigneur.
Oui, oui, oui. À l'aller comme au retour, vous avez emprunté, Père Simon d'Artigues, en France et en Italie, les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, donc la voie d'Arles, la via Francigena et la via Podensis. Se mettre dans les pas de nombreux pèlerins, qu'est-ce que ça revêtait pour vous comme sens?
Alors, c'est très puissant, parce qu'en effet, j'avais lu les récits de pèlerins du Moyen Âge qui partaient à Jérusalem, sans savoir si je prenais exactement leur chemin, mais en fait, c'est vrai qu'on inscrit notre démarche dans une démarche séculaire, quoi. Et d'ailleurs, à Jérusalem, et en Terre Sainte, il y a beaucoup de récits de pèlerins qui permettent de situer les lieux. Voilà. Au retour, d'ailleurs, aussi, hein, le chemin de Saint-Jacques, la Via Podensis. Alors là, pour le coup, il y avait beaucoup de pèlerins.
Oui.
J'ai croisé beaucoup de pèlerins. Donc, c'est une toute autre démarche de pèlerinage, mais qui est très belle aussi, qui est très belle aussi. Et c'était amusant enfin, quand je racontais que j'arrivais à des étapes, les gens demandent d'où est-ce que vous venez. Je dis, ben, je viens de Jérusalem et je rentre à Toulouse. Et
Alors
c'est
qu'eux étaient au
vraiment.
début de leur
Était
pèlerinage
souvent au début de leur
finalement,
pèlerinage,
oui.
mais c'est vrai qu'un pèlerinage, c'est vraiment de partir de chez soi et de revenir chez soi. Un pèlerinage, c'est pas simplement de. Le Seigneur, il nous dit pas de rester à Jérusalem, quoi.
Eh oui, c'est pas le
Il
mont
dit à chaque
Tabor.
fois à ses
Oui,
disciples,
faut descendre.
il faut redescendre, exactement. Il faut redescendre, il faut retourner là où je vous envoie, dans le monde. Donc pour moi, ben, ça sera la paroisse de Colomiers. Et d'ailleurs, c'était vraiment j'allais dire, la dernière providence de Dieu, hein. J'avais détourné mon chemin parce que je voulais passer par Lectoure et Boulor, parce que j'avais confié mon pèlerinage aux religieuses pour qu'elles prient pour moi. Et de fait, la dernière nuit, j'ai dormi à Pibrac chez les frères des écoles chrétiennes. Et le lendemain, entre Pibrac et Toulouse, il y a Colomiers. De fait, c'était la mission que j'avais
C'était votre
reçue.
route,
Et
oui.
donc voilà, donc j'ai pu traverser Colomiers. Prier, enfin dire le chapelet dans Colomiers justement en me disant voilà, Seigneur, c'est là que tu m'envoies
Oui.
maintenant. Maintenant mon pèlerinage se termine là et tu me donnes de traverser Colomiers, voilà l'endroit où où je serai pasteur, où je serai ton pasteur.
Oui, oui, c'est ça. Vous évoquiez pendant la pause musicale, Père Simon, le fait que cette retraite, hein, puisque vous l'appelez comme ça, a été un vrai temps de repos. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot repos ?
Alors de fait, je vous disais que je suis rentré reposé, très reposé. Comme je crois que j'avais jamais été autant reposé.
Même comme étudiant ou comme...
Ah oui, oui, vraiment. Oui. Mais c'est un repos alors qui est venu, bien sûr, de l'effort physique. En fait, l'effort physique, ça repose. Le fait de marcher, le silence repose, la solitude repose. Et ce qui m'a, je crois, le plus reposé, c'était évidemment... on parle beaucoup aujourd'hui de charge mentale. Moi, je n'avais plus aucun souci. Mais... J'avais deux seuls soucis, c'était où est-ce que je vais dormir, qu'est-ce que je vais manger. Voilà. Sinon, mon seul autre souci, c'était Jérusalem. Je veux arriver à Jérusalem. Chaque matin, la première chose que je faisais quand je quittais la maison où j'étais, c'était de dire le psaume 121. Voilà, quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur, maintenant notre marche prend fin, devant tes portes, Jérusalem ». Je remettais dans ma tête le but de mon pèlerinage, qui n'était pas du coup un souci, c'était vraiment un but, et ce but-là, il était reposant. Finalement, quand on se dit, voilà quel est mon but, j'en ai pas 50 à courir, j'ai un seul but, et aujourd'hui, j'ai 30 km à faire. Parce que 6000 km, c'est très long, on se dit, j'y arriverai jamais peut-être.
Oui, là, c'est vraiment rien que pour aujourd'hui,
Exactement, c'est parce que parfois, je pouvais baisser les bras, il faisait mauvais, on se dit, oui, j'y arriverai jamais, puis... Les pays étrangers, voilà. Mais par contre, ce que j'ai découvert, c'est que 6000 km, c'est long. 6 mois, c'est long. Mais par contre, se lever, faire un pas, et puis les 30 km donnés, en fait, ça, c'est possible. Et refaire le lendemain, 30 km, et le lendemain. Et puis, au bout de 6 mois, on arrive à Jérusalem. Et on arrive à Jérusalem reposé.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça nous dit, justement, le fait de... d'être que pour aujourd'hui, de se dire, aujourd'hui, je ne vais pas parcourir 6000 km, je vais parcourir les 30 qui vont me mener jusqu'à Jérusalem. Qu'est-ce que ça peut nous dire dans la vie quotidienne qu'on mène, dans cette période de rentrée où tout va se remettre en place et vous allez prendre une nouvelle paroisse et vous êtes forcément obligé d'anticiper, vous êtes obligé d'organiser les choses. Et puis pour tous ceux qui nous écoutent et les paroissiens que vous allez accompagner, quel équilibre il faudrait trouver justement entre ce focus qu'il faudrait avoir, la vie éternelle, voilà, la Jérusalem céleste, et puis le nécessaire quotidien.
Oui. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment une grande leçon, cette histoire-là des 30 km et 6000 km. Mais je crois vraiment que de se donner un but... même un but intermédiaire avant la Jérusalem céleste. Parce que la Jérusalem de Terre Sainte, c'est pas la Jérusalem céleste. C'est-à-dire que c'est un but qui nous tend vers la Jérusalem céleste.
Oui, c'est une étape.
Mais voilà. Et donc, en fait, on a besoin d'étapes dans nos vies. Finalement, pour moi, Jérusalem, c'était une étape dans ma vie de prêtre. Mais pendant ces 10 mois, en tout cas, j'ai été tendu vers cette étape. Et ça a ordonné toutes les petites étapes. Parce que finalement, il fallait quand même que je prépare. Moi, le soir, je préparais l'étape du lendemain.
Oui.
C'est-à-dire que je regardais le chemin. Est-ce qu'il y avait un sanctuaire où aller? Est-ce qu'il y avait des rivières à traverser? Est-ce que... je préparais quand même des choses. C'est-à-dire que le fait d'avoir un grand but dans notre vie, la sainteté, la Jérusalem céleste, un but médian, Jérusalem pour moi, mais un but pour ces 10 mois. Mais ça peut être pour une personne, ça peut être mon année scolaire, et ensuite le répartir en étapes intermédiaires. Moi, c'est ce que j'ai fait. Enfin, 6 mois, c'est des journées. Et chaque journée, finalement, elles étaient même redécoupées en petites étapes, parce que j'avais ma matinée qui était dédiée à la lecture de la parole de Dieu, il fait que je célèbre la messe, il fait que je trouve à manger, et puis le soir, il fait que je trouve mon logement. Enfin, j'avais tout un tas de petites étapes qui organisaient finalement mes journées et m'ont permis d'arriver à Jérusalem. Mais finalement, je ne partais pas le nez au vent.
Oui.
Je partais tendu vers un but. Voilà.
Avec des moyens concrets que vous mettiez en place.
Voilà, qui sont, quotidiennement. Et ça fait qu'on y arrive, quoi. Parfois, non, mais c'est vrai, hein, vraiment, pour moi, c'est une grande leçon de me dire que parfois les choses nous semblent des montagnes, on n'y arrivera jamais, parce qu'en fait, le but est trop loin. Mais si on le découpe en petites actions, en journées, ordonnées, c'est pas, mes journées ne partaient pas une fois à droite, une fois à gauche.
C'était structuré.
Mon chemin, il allait bien dans une direction. Mais par contre, je ne connaissais pas toutes les étapes. Certaines étapes, je les ai découvertes au fur et à mesure. Il y avait une part de... Je vous le disais, enfin, il y a des choses qu'on peut organiser et parfois on veut tout maîtriser. En fait, il s'agit surtout de maîtriser la journée qui vient. Pas tant tout ce qui va se passer, quoi. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'imprévus, même dans une journée. Oui. Voilà. Mais si j'essaie quand même d'occuper la journée qui vient, de vivre la journée qui vient, d'accueillir aussi ce que le Seigneur me donne d'imprévu, eh ben, il va me nourrir, il va aussi me fortifier, hein, parce que moi j'ai vraiment constaté, physiquement par exemple, je n'étais pas certain moi d'arriver au bout, et on se rend compte que le Seigneur et puis notre constitution, mais on est fortifié progressivement, pour traverser les épreuves qui se présentent, hein. Moi j'ai eu tout un tas de J'ai pas eu de grandes épreuves, mais tout un tas de petites épreuves.
Des déconvenues.
Des blessures, qui auraient pu me faire abandonner, quoi, vraiment. Oui. Moi, je connais plusieurs pèlerins qui ont pas pu aller au bout parce que, voilà, ils ont abandonné à un moment. Donc, moi, je me disais pas du tout, je vais arriver à Jérusalem. Je me disais, je vais arriver à l'étape du soir. Voilà. D'accord. Et je vise Jérusalem.
Voilà,
vraiment.
C'était votre but ultime.
Je vise Jérusalem.
Ouais. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci, Mondartig. Merci de nous avoir raconté aujourd'hui votre pèlerinage de Toulouse à Jérusalem. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle mission au service de la paroisse de Colomiers.
Merci beaucoup, Isabelle.
Cette émission Vivante Église est disponible en podcast. Vous pouvez ainsi la réécouter et la partager.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.